des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. To be free, les étoiles filantes. Épisode 1, l'insoutenable légèreté de leurs ailes.
To be free or not to be.
On faisait que de faire des conneries, hein, droite à gauche, on dansait.
C'est le mythe du boys next door qui, évidemment, attire les jeunes filles.
Vous nous aimez, mais nous aussi, on vous aime.
Pour moi, il y a un mystère dans le phénomène des boys bands français des années 90. Je le résumerai en une question. Pourquoi leur histoire s'est-elle terminée de la manière la plus tragique qui soit, et bien souvent par overdose?
Vous avez demandé la police, ne quittez pas.
Le lieu commun voudrait plutôt qu'on réserve les morts violentes de ce type à des groupes, je ne sais pas moi, de death metal ou de punk no future par exemple. En tous les cas, à des groupes dont les paroles mettent en scène la révolte et la mise en danger. Mais venant de garçons qui ont précisément construit leur image sur leur aspect conventionnel, leur côté mignon, leur sourire, de garçons qui respirent la santé et la confiance en soi, il faut avouer qu'on ressent comme une dissonance cognitive. C'est vrai, après tout, une fois leur succès passé, pourquoi est-ce que les membres des anciens boys bands ne deviennent pas le genre idéal qu'ils ont incarné dans leurs chansons ? Pourquoi est-ce qu'ils ne deviennent pas cadres supérieurs dans une agence bancaire ou agents immobiliers chez Belle Demeure, par exemple? Est-ce que cela signifie qu'ils auraient un peu enjolivé leur histoire dans leur présentation d'eux-mêmes? Non, ça, je ne peux pas le croire. Regardez, Adèle des To Be Free, par exemple. Il a créé une société de conciergerie de luxe et loue à présent des jets privés à ses gros clients en Suisse. Il a inventé l'Europcar des jets privés, il fallait quand même y penser. Et ça, eh bien, c'est tout à fait compatible avec un CV de gendre idéal. Mais il est vrai aussi que beaucoup d'autres se sont retrouvés ravagés par l'alcool, la drogue et les médicaments, en pleine détresse émotionnelle à la fin d'une carrière pas très longue. Alors qu'aujourd'hui, les métalleux tatoués et les punks à crête coulent des jours tranquilles dans leur maison de campagne. Enfin, certains d'entre eux. Nous allons commencer par explorer ce mystère.
Elle nous adore, les grands-mères aussi, elles nous adorent.
Parce que vous êtes propre, vous êtes vous représentez la jeunesse propre sur elle.
Je sais pas, une fois.
Vous n'êtes pas très rebelle comme garçon?
Non, pas trop. Non. Là, une fois, on a fait un concert à Niort et on a regardé un petit peu le public. Bon, il y avait 10 000 personnes et sur les 10 000 personnes, parce que devant, il y avait beaucoup de barrières et tout, il y avait les petites filles et il y avait au moins 200, 300 mamans, grands-mères et tout. Personnellement, c'est une satisfaction personnelle de toucher un public aussi large.
Quand on connaît la fin de l'histoire, le sourire dans la voix de Philippe Nicolic peut rendre un peu mélancolique. Car les mères et les grands-mères dont parle le leader des To Be Free dans cette archive de 1997 ne pouvaient pas imaginer que leur idole disparaîtrait en 2009, à l'âge de 35 ans seulement, plus ou moins tombée dans l'oubli. Le même sort attendait également Quentin Elias, puisque le leader du groupe Alliage a été retrouvé sans vie, chez lui, à 39 ans, après qu'il ait vu sa carrière péricliter et malgré une reconversion ratée dans le cinéma porno. Il avait également été serveur dans un restaurant et avait surpris une cliente dire dans son dos « T'as vu, c'est le mec des Alliages qui m'a servi la pizza ».
Je veux dire, le public s'identifie à nous, une espèce de projection d'image, c'est notre succès, on le doit par rapport à ce qu'on véhicule, à notre côté sain, sportif, trois copains qui ont rêvé de réussir dans le domaine artistique et un jour ils y arrivent, c'est un conte de fées qui se réalise. Beaucoup de copains qui ont entre 14, 15 ans, des jeunes, espèrent faire la même chose que nous et croient en nous, c'est pour ça qu'on est idolâtré comme ça par des milliers de fans et c'est pour ça qu'on a du succès. Les parents disent que c'est plutôt bien les To Be Free parce qu'ils sont sains, c'est gendre idéaux en fait et c'est peut-être aussi pour ça.
Alors des histoires de boys band qui se terminent mal, il y en a des dizaines, dont certaines remontent très loin. En 1956 par exemple, 5 garçons du nord de Harlem se font repérer alors qu'ils chantent sous un réverbère. En quelques mois, ils sont propulsés dans les charts avec un titre qui va rester célèbre, Why Do Fools Fall in Love? À la tête de ce boys band des premiers temps, les Teenagers, Frankie Lymons, le chanteur, est le fils d'un chauffeur routier et d'une employée de maison. Sa voix est angélique, son sourire plein de charme, et c'est un détail qui a son importance, il n'est âgé que de 13 ans. Les caméras et les micros l'adorent, et rapidement tous les États-Unis avec. S'ensuit le destin habituel des enfants stars utilisés comme des produits par leurs producteurs. À 15 ans, il est initié à l'héroïne par une femme deux fois plus âgée que lui. À 17 ans, voyant les succès de son groupe s'amoindrir, il tente une carrière solo. À 18 ans, il a déjà perdu l'essentiel de ses fans. À 25 ans, il meurt d'une overdose. En 1998, un film inspiré de son histoire sort sur les écrans. Son titre, évidemment, « Why do fools fall in love ?»« Pourquoi les idiots tombent-ils amoureux ?» Au passage, on dit parfois que ce boys band a été l'une des inspirations des Jackson 5, un autre boys band célèbre dont le chanteur vedette Michael Jackson est également mort d'un arrêt cardiaque suite à la consommation excessive de médicaments, des anesthésiants et des anxiolytiques. Alors évidemment, on pourrait raconter une autre histoire des boys bands en accumulant les exemples de groupes sans drame ni overdose comme les New Kids on the Block ou les Boys to Men. Mais disons simplement qu'appartenir à un groupe fabriqué de toutes pièces et dont les enjeux sont avant tout financiers semble, au moins vu de loin, exposé à un certain risque vital.
To Be Free, les étoiles filantes. Une série de Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisée par Félix Levacher. Attaché de production, Anne-Vanessa Prévost.
Est-ce que vous êtes prêts à passer une heure de folie ? S'éclate tous ensemble ?
Astrid Faguet, vous êtes journaliste et vous avez publié aux éditions du Cherche Midi le livre Garçon perdu, qui raconte l'histoire des boys bands français dans les années 90, les G-Squad, Alliage et bien sûr les To Be Free, dont on va parler plus précisément dans cette série. Que vous inspire d'abord ce qu'on vient d'entendre et ce qui a été dit jusqu'à présent ?
Déjà, la première chose, c'est que j'étais quand même très émue d'entendre, ça peut paraître idiot, mais d'entendre la voix de Philippe Nicolic à ses débuts. Parce qu'effectivement, on l'entend dans sa voix à ce moment-là. Tout va bien. Et puis après, vous l'avez très bien dit, ce sont ces destins tragiques. Finalement, personne ne pouvait y échapper à partir du moment où on est un groupe préfabriqué, que ce sont des stars très photogéniques et avec, pardon de le dire, peu de talent. Voilà, toutes ces combinaisons.
Peu de talent, vous iriez jusque-là ?
Oui, je vais jusque-là parce que je trouve que quand on réfléchit à un artiste qui a du talent, on identifie tout de suite sa voix. Souvent, c'est un artiste qui a beaucoup de références dans le domaine de la musique. Et là, force est de constater qu'avec ces groupes-là, c'est pas le cas.
Au-delà de leurs histoires personnelles, est-ce qu'il y a, selon vous, quelque chose dans le fonctionnement de ces boys bands qui peut conduire certains d'entre eux à des addictions, à des morts violentes ?
C'est assez difficile de répondre à cette question, mais je dirais qu'en fait, pour que ces groupes aient du succès, c'est une stratégie, ce sont des super productions, c'est très blockbuster. Par exemple, on va jamais aller chercher la rareté, créer un peu de mystère. Les producteurs, selon moi, savent que ce vont être des groupes éphémères et donc vraiment, ils mettent l'artillerie lourde. C'est-à-dire qu'on va les épuiser quand même jusqu'à plus soif. Tant que ça marche, on continue, on tire ce fil. Donc pour moi, effectivement, ça conduit fatalement à des destins brisés et à des chutes assez impressionnantes.
Et est-ce que vous pensez que les To Be Free avaient conscience à leur début qu'ils étaient utilisés comme ça par une maison de production, par tout un système médiatique ?
Je pense qu'ils étaient d'abord très heureux d'avoir du succès. Donc je ne suis pas certaine qu'ils aient réfléchi à l'après, aux conséquences. Je pense qu'ils vivaient le moment présent. Et puis je crois qu'à plusieurs reprises, donc ils faisaient partie d'une maison de production qui s'appelle IMAI et le directeur d'IMAI France leur avait dit « Écoutez, je sens que ça va se terminer, il faudrait qu'on fasse un dernier concert sur le toit de la maison de disques à Issy-les-Moulineaux ». Ça, ils n'ont pas, pas choisi cette option-là. Donc ils avaient quand même envie que ça continue.
Il y a quand même des histoires de boys band qui se terminent bien.
Oui, il y a certains membres de boys band qui s'en sont bien sortis. C'est plutôt ça. Mais de façon globale, quand on regarde le parcours de tous ces groupes, chaque membre a essayé de se raccrocher à un succès qui était irrattrapable. C'était terminé, ils étaient étiquetés boys band. Donc j'ai du mal à dire que certains destins de boys band ont fini de façon joyeuse.
Alors oui, il ne faut pas être caricatural. Au sein des To Be Free, les trajectoires personnelles des différents membres du groupe varient. Et si l'histoire se termine effectivement mal pour Philippe Nicolic, ça n'est pas le cas pour les autres membres du groupe, puisque Adèle, on l'a dit, a fait carrière comme entrepreneur et Franck a poursuivi sa carrière comme acteur. Il tentera même de relancer un groupe avec un membre de G-Squad.
On va commencer par Adèle.
Oui, je m'appelle Adèle.
Donc
j'ai 22 ans.
J'ai grandi à Longjumeau, dans la région parisienne. Et voilà, je suis avec mes meilleurs amis, Philippe et Franck, et on vit une aventure extraordinaire depuis 2 ans. On travaille beaucoup aussi, parce que le succès, ça vient pas par hasard. Si on a vendu 1 million d'albums du premier, c'est qu'on a beaucoup travaillé et qu'on travaille beaucoup toujours aujourd'hui.
Franck ?
Alors moi, c'est Franck. Je suis le plus vieux, j'ai 24 ans. Je suis aussi le plus discret, d'après ce qu'on dit de moi.
C'est vrai ?
Oui, c'est vrai. J'aime bien me préserver.
C'est le sous-marin.
J'aime bien me préserver un peu. Sinon, j'ai également grandi avec à Longjumeau avec Adèle et Philippe. Je viens d'une famille plutôt modeste. J'y ai vécu avec ma mère et puis j'habite à Paris maintenant.
Que vous inspire cette archive à Street Faguet ?
Je me dis vraiment, dans ces groupes de garçons, chacun devait occuper un créneau et avoir sa place. Donc là, d'ailleurs, Franck, tout de suite, il est étiqueté comme étant le discret.
D'ailleurs, les discrets s'en sortent mieux à la fin, on remarque.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et on voit que c'est une formule qui s'applique en réalité à tous les groupes. Il va y avoir, sur ces autres groupes français, je pense au G-Squad, il va y avoir le ténébreux, il va y avoir le romantique, il va y avoir le blond.
Donc des personnages qui montrent bien qu'on est dans la fiction,
ouais.
On est dans la narration.
Voir des personnalités. Vraiment, ça, c'est important. Et puis, il y a 2 autres choses voilà, qui m'ont marqué dans cet extrait. Effectivement, ce sont des garçons travailleurs. Ça, ils le disent. Moi, j'ai suivi leur parcours. Il y a une 2e étape dans leur carrière où ils vont commencer à apprendre l'anglais pour essayer de renouer avec le succès et faire un album américain. Donc, vraiment, ils en veulent. Et puis après, il y a cette histoire de milieu. Je crois qu'ils le disent tous les deux dans votre extrait, ils viennent tous les deux de milieux modestes. Et ça aussi, ça peut expliquer, selon moi, que la suite a été difficile. C'est-à-dire que quand on vient d'un milieu modeste, tout à coup, on a accès à quelque chose qui est complètement nouveau. On touche des salaires qui semblent mirobolants. Et donc, encore une fois, il me semble que la chute, elle est encore plus rude quand on vient, selon moi, d'un milieu modeste.
La plupart du temps, les boys bands sont des constructions marketing dont les membres ne sont en général que les visages et aussi, peut-être même surtout d'ailleurs, les corps. Cela dit, c'est un peu différent dans le cas des To Be Free, qui étaient déjà amis avant de former leur groupe. Ils l'ont souvent raconté en interview, cette amitié était même au cœur de leur légende.
On se connaît depuis 12 ans, on a grandi dans la même classe.
On a grandi dans la même ville.
Dans la même
ville. À Longjumeau, c'est
on
ça
On a été voilà, dans la même classe avec Adèle et Franck, ouais. Surtout Adèle, parce que j'étais en 5e, 4e et 3e avec lui. Et il était meilleur élève que moi.
Non, il était meilleur en...
J'étais meilleur en maths quand même.
Ouais, en maths, et moi j'étais bon en français. Donc
c'était le meilleur en conneries, Philippe.
Ouais,
j'ai plus de bêtises.
Je faisais le plus de
ça
bêtises.
Ça pompait un peu, si j'ai bien compris.
Ouais. Ah ouais, moi aussi.
Mais vous êtes quelle sorte de jeunesse Longjumeau, c'est pas une banlieue zone quoi.
Longjumeau, il y a quand même 15 ans,
elle a eu son petit problème.
Il y avait un fléau qui était une majorité de délinquance. Non, c'était assez important. Et puis on aurait pu tomber, nous, dans la délinquance. Ceci dit, on a créé une association qui s'appelait COA, Concept of Art, dans ses luttes contre la délinquance. Et c'est comme ça, c'est le sport aussi qui nous a permis de rester sains et avoir une scolarité assez régulière.
Longjumeau, cette ville dont les To Be Free sont originaires, compte 20 000 habitants et se situe à 20 kilomètres au sud de Paris. Y sont également nés Marc Lavoine et Jean-Luc Lemoyne. Lénine y a séjourné 4 mois en 1912. Et la première mention de cette commune dans les archives de Radio France, eh bien, c'est celle-là.
Mesdames, Messieurs, le service des émissions musicales de la radiodiffusion française vous présente maintenant le postillon de Longjumeau. Opéra comique en 3 actes de Deleuven et Brunswick, musique d'Adolphe Adam.
Rien à voir a priori avec les To Be Free, sauf que cet opéra comique raconte l'histoire d'un postillon, c'est-à-dire d'un cocher parti de rien et qui accède à la gloire en chantant. Sa voix est si belle que lorsqu'il se met à interpréter un air à l'occasion d'un mariage, un directeur de l'opéra qui se trouve à la noce l'emmène se produire à Paris où il devient une star. On verra dans la suite de cette série que c'est à peu près ce qui est arrivé aux To Be Free, à part que leur Pygmalion ne les a pas rencontrés dans un mariage, mais à la salle de sport de l'Aquaboulevard. Astrid Faguet, est-ce que l'origine banlieusarde des To Be Free, c'est important pour comprendre leur parcours ?
C'est intéressant, parce que à ce moment-là, il y a aussi d'autres groupes qui se forment, qui viennent de banlieue et dont le message est radicalement opposé. Je pense aux groupes de rap, je pense à NTM, hein, donc vraiment NTM, c'est Nique ta mère, donc on voit qu'on est sur deux messages complètement différents.
C'est une autre banlieue.
C'est une autre banlieue et on voit que d'un côté, le projet des To Be Free, quand on y pense, il est génial. Ces garçons de banlieue qui délivre un message extrêmement positif, qui ne fume pas, ils ne boivent pas non plus, ils font du sport, voilà, ils délivrent un message qui n'est pas critiquable et ce qui explique aussi que les mères de famille, les grands-mères adulent complètement ces groupes-là.
Alors il faut aussi rappeler les origines de Philippe Nicolic, le leader des To Be Free, dont les parents sont arrivés de Serbie et qui vivent dans des conditions relativement précaires. Il raconte que il faut partager la chambre avec les parents, avec un rideau pour séparer le lit des enfants des parents, c'est ça?
Oui, c'est ça, il y a un rideau qui est tiré. Alors les parents de Philippe Nicolic, qui viennent de Serbie, quand ils arrivent, d'abord ils s'installent à Saint-Ouen, donc Philippe est né d'ailleurs à Saint-Ouen, et après ils s'installent à Longjumeau, donc effectivement c'est à... Alors je pourrais pas vous dire exactement la taille de cet appartement, mais je sais qu'en tout cas on cohabite, qu'il y a vraiment une proximité. Oui, donc c'est relativement modeste. Sa maman, elle est employée de mairie à la mairie de Longjumeau, je crois qu'elle fait le ménage. Son papa, il est chauffeur routier, donc voilà, on est dans c'est un milieu assez modeste.
Alors dans votre livre Astrid Faguet, vous vous intéressez aussi à d'autres boys bands comme Alliage ou J-Squad. Est-ce que là encore les origines sociales, le parcours de leurs membres est similaire avec celui des To Be Free?
Oui, à quelques exemples près, oui. Par exemple, chez Alliage, il y a un membre, alors qui est d'ailleurs, je crois, le plus jeune membre de ces boys bands français, qui s'appelle Roman, et lui, il a 15-16 ans. Donc, comme il est mineur, ses parents, voilà, il n'est pas émancipé, et ses parents vraiment contrôlent tout ce qui se passe. Et lui, c'est un peu différent, parce que je crois que son père était banquier. Il habite dans le 15e arrondissement de Paris. Donc voilà, à part lui, qui vient quand même d'un milieu relativement privilégié, les autres, c'est à peu près le même parcours. Voilà, ils sont tous plus ou moins d'origine modeste.
Donc ils sont peut-être aussi exploités d'une certaine manière, en tout cas on peut l'imaginer, de par précisément le fait qu'ils sont entre guillemets dominés dans le champ.
On peut se poser la question, effectivement, de savoir s'ils sont exploités. J'ai l'impression que de toute façon, ils sont tous tellement heureux d'accéder à ce statut de star de façon éphémère que voilà, c'est finalement assez facile de les exploiter, mais ils sont pas tellement conseillés, c'est-à-dire que ils ont des contrats à signer, mais ils prennent pas d'avocat. Vous voyez, ils sont pas accompagnés. Compte tenu de leur jeune âge, on peut se dire que c'est assez étonnant.
C'est en Angleterre qu'ont été inventés les boys bands modernes. L'un des premiers grands succès du genre s'appelle Take That, avec Robbie Williams, qui devient dans les années 90 le groupe le plus populaire de Grande-Bretagne. Ces groupes, comme les TBS aujourd'hui en Corée, sont fabriqués à partir de casting, un peu comme un producteur de cinéma fabriquerait de toutes pièces un film en faisant travailler ensemble un scénariste, un réalisateur, des comédiens et un compositeur pour la musique. Afin d'obtenir un maximum de succès, ces groupes sont calibrés pour plaire à un public cible, en l'occurrence les jeunes filles, leurs mères, et aussi la communauté homosexuelle, ce que la plupart des boys bands n'assumaient pas d'ailleurs, comme on le verra un peu plus tard. Ces stars sont donc la matière première d'une entreprise plus grande qu'eux-mêmes et qu'ils ne maîtrisent pas vraiment. En 1996, Philippe Nicolic se présente à un concours de mannequins sur TF1 et remporte la compétition. Dans le même temps, la maison de disques EMI cherche depuis quelques mois à lancer un boys band français. Elle a même déposé des annonces dans les salles de sport. Philippe ne chante pas très bien, mais avec un peu de travail, se dit la maison de disques, il pourrait bien faire l'affaire.
C'est vrai aussi que c'est arrivé par vous, Philippe ?
En fait, c'est un concours de circonstances. Je me trouvais dans une émission de télé TF1 dont je faisais un concours et puis j'ai rencontré
un concours de quoi ?
Mister France 96, j'ai gagné.
Et vous avez gagné, c'est pas mal quand même, hein ?
Avec ses trois amis d'enfance, Philippe a le physique de l'emploi, mais il a aussi une farouche volonté de réussir. Détail qui n'en est pas un, les To Be Free sont aussi de grands travailleurs.
Il faut se rappeler d'une phrase, n'oublie jamais d'où tu viens, c'est pas parce que t'es idolâtré,
adulé,
qu'il faut tout de suite lever la tête et puis prendre la grosse tête.
Ouais, mais quand vous vous retrouvez tout seul le soir dans votre lit, vous rêvez de quoi ?
De dormir.
Vous avez pas le temps de rêver.
Surtout en ce moment. On arrive dans le lit, on dort.
Vous vous rendez pas compte du planning qu'on a. Surtout en ce moment, depuis 2 mois, 3 mois. Vous voulez qu'on vous...
Ouais, expliquez-nous. Ouais.
Alors, par exemple, du lundi au lundi.
Explique la journée d'aujourd'hui, si tu veux.
Ouais. Ce matin, 8h, hein, c'est ça, hein, répète. Ensuite, on est arrivé ici 10h pour une radio. La vôtre, maintenant, 11h. Ensuite, on a 3 télévisions et le soir, une autre. Ça dure jusqu'à 1h du matin.
Ouais.
Et c'est tous les jours comme ça. Et demain, par contre, répétition, 8h, 14h, chant et danse pour le Zénith.
Et puis pareil, et ensuite, deux émissions de télé l'après-midi.
Voilà.
Ah ouais.
C'est sympa d'être venu chez nous.
Alors, on s'en doutait un peu, Astrid Faguet, mais en lisant votre livre, on s'en rend encore plus compte. C'est la télévision qui fabrique les To Be Free, la répétition sans cesse de leurs chansons qui passent à la télé, notamment sur TF1.
Ce sont des stars cathodiques, hein, honnêtement, avant d'être de grands chanteurs ou de grands musiciens. Enfin, d'ailleurs, entre parenthèses, personne ne joue d'un instrument. Ils sont vraiment taillés pour la télé, déjà parce qu'ils sont très beaux. Et en plus, c'est vraiment une façon d'insister, de passer en boucle ces musiques, de passer en boucle leur visage. Et on s'en rend compte, là, en entendant cet extrait. Moi, je suis scotchée, je trouve que Philippe, il est très bon en interview. Il est drôle, peut-être que ça aurait pu honnêtement marcher plus longtemps.
Qu'est-ce qui fait justement le succès d'un groupe ou d'une chanson ? Le journaliste américain Derek Thompson explique dans son livre Hitmakers qu'il est impossible de prévoir avec certitude si une chanson va ou non devenir un hit. Mais il repère tout de même de grandes constantes, et l'une d'entre elles, c'est l'exposition. Si l'on entend suffisamment de fois une chanson donnée, on va finir par s'y attacher d'une manière ou d'une autre, ou en tous les cas à la reconnaître, ce qui est le premier stade de l'attachement. Personnellement, c'est une loi de la nature que je regrette régulièrement quand elle conduit à diffuser dans les mariages et les anniversaires la même série de tubes qui vont d'Alexandrie Alexandra jusqu'au Démon de minuit. De temps en temps, un nouveau titre entre dans cette playlist comme Get Lucky des Daft Punk. On sait alors qu'on ne perdra pas son temps à en apprendre les paroles puisque cette chanson va nous accompagner pour les décennies qui viennent. Toujours est-il qu'un tube, c'est d'abord de la familiarité, c'est-à-dire de la répétition. Dans son livre, Derek Thompson explique aussi qu'il faut une autre forme de familiarité pour faire un hit. La musique d'un tube se doit en effet de ne pas être totalement déroutante. Certes, il doit s'agir d'une nouvelle chanson, mais dont on a déjà entendu très souvent les principales caractéristiques. Il faut ajouter à ce qui est familier une petite différence, minime, afin de mettre un hit sur sa rampe de lancement. Voilà, est-ce que ça n'est pas aussi un petit peu déprimant ? Je vous laisse méditer.
Ce qu'on fait, c'est jeune, c'est frais, c'est pas prétentieux ce qu'on fait. Donc, c'est vrai que musicalement, on va vraiment complètement se diriger vers un autre style musical, un peu plus produit, mieux produit, je dirais, et avoir une vraie vraie carrière artistique. Mais ceci dit, pour commencer comme ça, c'est bien aussi, c'est très bien. C'est comme un ouvrier qui commence d'abord par avec le burin et le marteau, et puis qui termine avec le marteau-piqueur. Enfin, c'est une image.
Astrid Faguet, cette expression de Philippe qui veut passer de la composition au burin à un style musical au marteau-piqueur, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ah, ça m'inspire pas beaucoup de nuances quand même, mais j'aime bien cet extrait où ils racontent que finalement leur musique n'est pas prétentieuse. Et c'est vrai, ils ne se prennent pas au sérieux.
Et qui est-ce qui les écrit ces chansons alors ?
Ce qui est utilisé généralement, la stratégie, c'est de prendre ce qu'ils appellent les face B de musique américaine. Donc, c'est-à-dire la face A, c'est la musique qui a cartonné, et la face B, c'est la musique qui est passée un petit peu en dehors des radars. Donc, ils se servent. Alors, je pense que c'est vraiment pour des questions financières et aussi pour un gain de temps assez clair, hein, de pas se prendre la tête à appeler 15 compositeurs. Donc, la plupart du temps, ils font ça.
Donc, ce sont des reprises, toujours.
Ce sont des reprises. Alors, pour partir un jour, j'espère que je vous dis pas de bêtises parce que je vous dis ça de mémoire, il me semble que c'est un groupe qui s'appelle Infinity. Ils ont collé sur cette musique des paroles assez simples qui sont partir un jour à partir de ce titre anglais. Mmh. Donc après, voilà, pour les paroles, hein, on s'en rend compte, c'est des rimes qui sont assez simples. En revanche, la musique, la composition, elle est un peu retravaillée, mais à partir de quelque chose déjà existant.
Alors leur succès, il est immense, à tel point que il y a tout un éventail de merchandising qui est développé autour des To Be Free, et notamment une série produite par AB Productions qui s'appelle Pour être libre.
Oui, alors Pour être libre, en plus, ça reprend le titre d'une de leurs chansons. Et c'est vrai que là, on réalise que c'est la rencontre de deux mondes qui étaient vraiment faits pour se rencontrer. C'est-à-dire que d'un côté, on a AB Productions, qui est cette grosse machine qui produit des
Hélène
séries.
Et les garçons.
Tout ça, Hélène et les garçons, alors les premiers baisers, vous voyez même les titres, ils sont déjà assez accrocheurs. Une machine très commerciale aussi, qui finalement était faite pour rencontrer cette machine très commerciale qu'est les boys bands. Et je sais qu'à l'époque, Jean-Luc Azoulay que j'ai interviewé...
Donc le A de AB Productions.
Ouais, exactement. Donc le B, c'est pour Claude Berda et le A, c'est Jean-Luc Azoulay. Il voulait produire une série sur les boys bands, voyant que le phénomène était ce qu'il était. Et finalement, quelqu'un de son entourage lui a conseillé de prendre directement le boys band, et c'était une bonne idée, hein, au vu des chiffres d'audience, de se mettre en contact directement avec le boys band français qui fonctionnait, à savoir les To Be Free.
Donc on voit qu'on part toujours d'un concept qui est un concept qui vient toujours d'un producteur ou d'une maison de production.
Ils sont exécutants.
Mais bon sang, mais qu'est-ce qu'il fait Adèle là? Oh, tu le connais, il est toujours en retard celui-là. C'est pénible à la fin. On retient la salle pour une heure avant les vacances et il va arriver pour le dernier quart d'heure. Mais c'est pas grave. De toute façon, on part ensemble en Angleterre. On pourra répéter là-bas. Oh. Je me vois bien sur les plages en train de répéter. Avec toutes les filles qui me regardent, ça va être dément.
Attends Philippe, je te préviens tout de suite, hein. On va pas passer notre temps sur les plages. Hein.
Attends, mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre?
Il y a plein d'endroits à visiter en Angleterre. Oxford, Cambridge, The British Museum.
Ouais, c'est ça. Et puis la Tate Gallery aussi.
Autre merchandising, il y avait le magazine des To Be Free, ouais, qui a également été un très grand succès.
Alors, il y avait le magazine, il y avait le frisbee, il y avait le jeu de société, il y avait la gourde. Honnêtement, là aussi, ils ont tiré le fil jusqu'à l'épuisement. Mais la question du magazine, elle est assez intéressante parce qu'en plus, ça relance toute une presse à l'époque qui est vraiment... Alors, c'est pas la presse people, je trouve pas le bon mot, mais c'est vraiment une sorte de presse...
La presse pour ados.
Ouais, la presse jeune, voilà. Et... finalement, eux, ils vont sortir leur propre magazine. Donc, c'est dire leur succès. Et ça rappelle aussi un peu Claude François avec Podium. Donc oui, c'est assez intéressant, ce volet-là.
Pour 19,50 francs, oui. On apprenait que Adèle n'était pas contre le fait d'avoir une petite copine plus jeune et que Philippe avait eu une aventure avec une fan. Voilà, 15 numéros au total, vendus chacun à 100 000 exemplaires.
Ouais, alors là, on voit vraiment le côté hyper racoleur, c'est exactement ça. Donc tout à coup, on imagine qu'une fan lisant ce titre, ce chapeau avec Philippe, qui aurait eu une aventure avec une fan, va immédiatement acheter le magazine. Voilà, ça va être des titres du style « Adèle aime les filles gentilles ». Donc là, on imagine l'émotion des filles gentilles à ce moment-là.
Les années 1997-98 constituent le pic de la popularité pour les To Be Free. Ils remplissent le Zénith de Paris, sont certifiés triple disque de platine avec Partir un jour et seront bientôt double disque d'or avec leur deuxième album dont le titre manque peut-être un petit peu d'inspiration puisqu'il s'intitule To Be Free. Derrière ce succès immense s'annonce bientôt la descente. Mais il y a une autre histoire à raconter à leur sujet. C'est celle de la trajectoire personnelle de Philippe et de sa rencontre avec un personnage détonnant, l'exécuteur testamentaire de Céline, François Gibault. On en parle tout de suite dans l'épisode qui suit.
Est-ce que vous êtes prêts à danser? À chanter, s'éclate tous ensemble.